Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Louis Gallois déplore une volonté politique de minorer le nombre des sans-logis et s'indigne des méthodes privilégiées par certains préfets. Retour sur les indignations du président de la Fédération des acteurs de la solidarité dans un instant. Au lendemain de frappes sur le territoire syrien, de la perte d'un F-16 au combat, Benjamin Netanyahou prétend, je cite, qu'Israël a porté un coup sévère à l'Iran et à la Syrie. Fin de citation. Commentaire de l'analyste Hofer Salzberg. Dégâts d'image et remous politiques en Tunisie après que l'Union européenne a confirmé intégrer le pays à sa liste noire des pays susceptibles d'être fortement exposés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Correspondance de Maureen Mercier. Enfin, la face cachée du Globe, signée ce dimanche. Nadine Epstein s'attarde sur les prisonniers politiques. Les mots claques, ce sont ceux du président de la Fédération des acteurs de la solidarité qui regroupe 900 associations. Louis Gallois s'indigne et frontalement des propos tenus par le secrétaire d'État en charge du logement, Julien de Normandie, selon lequel seulement une cinquantaine d'hommes isolés dorment dans la rue en Île-de-France. Propos insupportables. Louis Gallois met également en cause les préfets qui seraient, je cite, liés à la promesse du chef de l'État de ne plus avoir aucune personne à la rue à la fin de l'année dernière. Des préfets mis en cause quand ils dénombre les sans-logis. Bonjour Louis-Valentin Lopez.
Bonjour Mathieu.
Louis-Valentin, Louis Gallois appelle le gouvernement à se mettre au travail et avec rigueur et avec sérieux.
Oui, parce que ce qui choque Louis Gallois, ce sont les propos du député LREM Sylvain Maillard. Vous vous en souvenez sans doute, ils ont été très médiatisés, des propos selon lesquels une immense majorité de SDF passerait la nuit dans la rue. Par choix, Louis Gallois l'accuse de faire une règle générale. Droit de réponse de Monsieur Maillard que j'ai joint. Il regrette, je cite, l'adjectif immense, il le remplace par certains, mais il maintient que certains SDF ne veulent pas aller en foyer parce que s'y trouvent des personnes avec, je cite, toujours des problèmes psychologiques ou de drogue. Il invite à ne pas réfléchir en bourgeois, à ajouter cela au fait, il le concède, qu'il était très fatigué lors de l'interview.
Alors, bon, Louis-Valentin, ce qui scandalise également Louis Gallois, ce sont les propos, on l'a dit, de Julien de Normandie.
Le secrétaire d'État qui déclarait qu'il n'y avait qu'une cinquantaine de personnes isolées dormant à la rue en Île-de-France. Insupportable pour Louis Gallois. Eh bien, selon l'attaché de presse de Julien de Normandie, ces propos, ils ont été mal compris. Une cinquantaine, c'est le nombre de personnes qui ont appelé le 115 durant la nuit, il y a deux semaines, et qui n'ont pas pu être hébergées. Enfin, Louis Gallois, vous l'avez dit, Mathieu, sonne la charge contre les préfets très violentes. Ils auraient, selon lui, des méthodes de comptage discutables. Du coup, autant demander au patron des préfets ce qu'il en pense. Réponse de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Je ne souhaite pas polémiquer avec Monsieur Gallois, que j'aime par ailleurs beaucoup. C'est déjà ça.
Louis-Valentin Lopez, Israël intervient régulièrement en Syrie. Mais hier, rien ne s'est passé comme d'habitude. En témoigne l'ampleur des bombardements près de Damas, le nombre de sites iraniens ciblés et les déclarations du gouvernement israélien. Nous sommes prêts à tous les scénarios, à sans tarder marteler le Premier ministre Benjamin Netanyahou. C'est précisément ce sur quoi tient à insister Hofer Salzberg de l'organisation International Crisis Group. Il vient précisément de rédiger un rapport sur le risque de l'ouverture d'un deuxième front en Syrie.
This is the first time that we have an Iranian drone.
C'est la première fois qu'on voit un drone iranien dans l'espace aérien israélien. On ne sait pas encore si c'était un drone d'espionnage ou un drone de combat. Personnellement, je pense que c'est un drone d'espionnage. On avait déjà vu un drone syrien, un drone russe. Mais comme l'Iran est considéré par Israël comme son pire ennemi et que ce drone a violé son espace aérien, Tel Aviv a voulu montrer clairement que de telles actions ne sont pas acceptables et a donc lourdement réagi. Cet incident est un symptôme de la confiance que semblent prendre l'Iran et Assad face à Israël. Cette assurance d'un côté et la vive réaction d'Israël de l'autre font que des erreurs de jugement sont plus dangereuses. Ça pourrait mener à une guerre entre Israël, l'Iran et le Hezbollah à l'intérieur de la Syrie. Ça pourrait aussi pousser le gouvernement de Damas à prendre part à une guerre contre Israël. Et Israël est capable de faire beaucoup de dégâts. Une deuxième guerre au sein de la Syrie pourrait émerger de tout ça.
Lead to a second war taking place inside Syria.
Ofer Salzberg de l'International Crisis Group, propos recueillis par Charlotte Baris. La classe politique tunisienne est choquée, choquée par la confirmation cette semaine d'une décision de l'Union européenne. La Tunisie figure maintenant sur sa liste noire des pays susceptibles d'être fortement exposés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Quelques jours avant que la sanction ne tombe, le président français Emmanuel Macron, lors d'une visite officielle, avait pourtant dit tout le bien qu'il pensait du pays. Le ministre tunisien des Affaires étrangères parle d'une décision injuste et hâtive. Tunis, Maureen Mercier.
Les politiciens outrés se renvoient la balle sur les plateaux télé. C'est un dégât d'image qu'on ne tolère pas. Si la Tunisie figure sur cette liste, pour eux, c'est à cause d'une simple erreur diplomatique. Le dossier aurait mal été défendu devant les instances européennes. Entre les politiques et les spécialistes, il y a un monde pour bon nombre de techniciens. Non seulement la Tunisie mérite malheureusement sa place sur la liste des pays exposés au financement du terrorisme, mais il y a urgence. C'est notamment l'avis de Samir Brahimi, secrétaire général du Centre international Hedi Nwira de prospective et d'études sur le développement.
Le Conseil de sécurité recommande aux pays de communiquer les listes des terroristes aux autres États, de mettre en place des mécanismes de gel automatique des avoirs des terroristes, etc. Nous ne l'avons pas fait. Il y a aussi des fonds qui débarquent dans le pays. La douane fait ses contrôles sur la base de la réglementation d'échange, mais pas sous une approche de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Bien sûr, il y a urgence. Il faut que le pays fasse ce qui est nécessaire pour se protéger et, par ricochet, pour protéger le système financier international.
Trop d'argent circule aussi via la contrebande entre la Libye et l'Algérie, de l'argent qui finance parfois le terrorisme. La première tête est tombée, le Premier ministre a limogé le directeur de la Banque centrale. Mais pour que la Tunisie quitte cette liste, il faudra, selon bon nombre de spécialistes, bien plus que ces changements cosmétiques.
600 000 à 800 000 personnes en sont atteintes en France et pourtant elles restent méconnues. L'épilepsie, hier premier sommet national consacré à cette maladie chronique à Paris. Objectif, faire mieux connaître l'épilepsie qui entraîne dans la plupart des cas des convulsions et des absences à cause d'un dysfonctionnement électrique du système nerveux. Un cas parlant, celui d'une petite fille de 4 ans. Rose, épileptique, vit dans le Gard. Il y a 2 ans, elle était exclue de sa crèche. Nous avons recueilli le témoignage de son père, Fabrice Augustin.
J'ai reçu un email qui me disait qu'elle était exclue et qu'il fallait pas qu'elle revienne à la crèche le lendemain, qu'il fallait que je vienne récupérer ses affaires. Il a surtout insisté sur le fait que Rose n'avait pas sa place dans la crèche, qu'elle devrait aller dans un institut spécialisé et que, de surcroît, elle risquait de faire peur aux autres enfants et de les blesser. On ne perd pas connaissance, mais elle perd le contact avec nous. C'est des crises qui, généralement, dans le cas de Rose, durent moins de 5 minutes.
Elle comprend ou pas?
Ça a changé notre ambiance familiale. Je me suis retrouvé du jour au lendemain, tous les jours, avec ma fille à la maison. On était enfermés tous les deux, sans pouvoir voir d'autres copains pour elle, sans pouvoir la sociabiliser. Je pense que c'est lié à des peurs ancestrales. On pense au malin, à la possession, au diable, parce que quand se manifestent les crises d'épilepsie et qu'on perd le contact et toutes ces secousses, il y a une peur de la vision de la maladie, de la manifestation de la maladie qui doit faire partie de l'inconscient collectif.
Le malade, le différent, on n'en parle pas, on le laisse en dehors de la société.
Exactement, on le cache. Et nous, clairement, ce qu'on nous a préconisé sans l'écrire, c'est rentrer chez vous, rester chez vous avec votre fille. La solution, elle est de pas hésiter à en parler, de pas se cacher, de pas rester chez eux avec leur enfant, de se battre, d'essayer de les socialiser un maximum en montrant qu'il y a beaucoup de cas comme celui de Rose.
Voilà, les parents de Rose ont poursuivi en justice la direction de l'établissement de la crèche. Déboutés, ils ont fait appel. Les Jeux Olympiques d'hiver de Séoul, versant géopolitique, 2 faits marquants à ce chapitre. La visite de la sœur du leader nord-coréen et la sourde oreille affichée par les Américains. Frédéric Jardias nous appelle de Pyeongchang, le site des JO.
Médias et publics sud-coréens sont fascinés par Kim Yo-jong, la première sœur de Corée du Nord. Son éternel sourire énigmatique, sa tenue très simple, sont scrutés à la loupe à chacune de ses apparitions publiques, lors du déjeuner avec le président sud-coréen ou lors du match de hockey de l'équipe coréenne unifiée. Frappée de sanctions américaines pour son rôle dans des violations des droits de l'homme au Nord, la jeune femme a été reçue avec tous les honneurs au Sud. Elle conclut sa visite par un déjeuner avec le Premier ministre et un concert donné à Séoul par un orchestre nord-coréen. Face à elle, les États-Unis ont perdu une bataille médiatique. Le vice-président Mike Pence, en visite lui aussi au Sud, s'est efforcé de rappeler les exactions du régime, mais son refus obstiné de rencontrer les représentants nord-coréens est considéré par beaucoup comme contre-productif. De son côté, le président sud-coréen n'a pas encore répondu à l'offre de sommet à Pyongyang. Il cherche à ménager son très sceptique allié américain, mais il devrait poursuivre ses efforts pour résoudre la crise avec le Nord à travers le dialogue et la négociation.
Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture, c'est l'heure de la face cachée du globe avec vous, Nadine Epstein. Bonjour.
Bonjour. Moment historique, 11 février 1990, ce dimanche-là.
Mes amis, mes camarades et mes compagnons de sang, je vous salue tous. Au nom de la paix, de la démocratie et de la liberté. Une banderole, le soleil brille sur l'Afrique du Sud. Nelson Mandela vient de quitter sa prison, 27 années passées derrière les barreaux. En signe de victoire, Nelson Mandela lève le poing. Les Noirs d'Afrique du Sud attendaient cela depuis 27 ans.
Il y a 28 ans, Nelson Mandela, le plus vieux prisonnier du monde, retrouvait la liberté à 72 ans. Il en avait 45 quand il a été arrêté en 1963. Aujourd'hui, quelles sont les figures contemporaines de Mandela ? L'icône, le héros de la lutte anti-apartheid, prix Nobel de la paix 1993, Madiba est-il un modèle pour ceux qui sont détenus pour leurs idées politiques ? Mandela est devenu un surnom pour les prisonniers qui détiennent un triste record de détention. Le Mandela kurde, Abdullah Öcalan, dirigeant du Parti des travailleurs du Kurdistan, incarcéré depuis 18 ans sur l'île prison d'Imrali, au nord-ouest de la Turquie. Mais depuis, des milliers d'autres personnes ont été écrouées dans les geôles turques pour s'être opposées au président Erdogan. Antoine Madelin, de la FIDH, Fédération Internationale des Droits de l'Homme.
D'autres jeunes Öcalan ou d'autres démocrates, des avocats kurdes, ont été assassinés en Turquie pour avoir défendu les droits de personnes kurdes ou turques et qui aujourd'hui sont des agents gênant pour les autorités.
Entre Öcalan, Mandela et aujourd'hui, la répression touche moins un leader politique qui avait une lutte armée, par exemple, que des gens de la société civile qui manifestent autrement leur opposition.
De manière stupéfiante, en effet. Nous avons vu depuis une vingtaine d'années un vrai développement de la société civile dans le monde entier. Avec le développement d'Internet, leur action a pu se propager de manière remarquable. Et c'est ce tissu social dont les dirigeants autocrates ont aujourd'hui peur. Et c'est ce tissu social que ces dirigeants cherchent à ciseler et détruire, et en effet anéantir. Depuis la tentative de coup d'État avortée en 2015 en Turquie, le président Erdogan a mis en place également un arsenal législatif extrêmement sévère. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées depuis 2 ans. Toute personne qui avait par le passé exprimé des opinions différentes, avait pu s'engager politiquement de manière différente en Turquie.
Donc ce sont des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, c'est la même chose ?
Pour nous, Organisation des Droits de l'Homme, c'est la même chose.
Antoine Madelin, est-ce qu'aujourd'hui on connaît le nombre de prisonniers politiques dans le monde ?
Concernant par exemple des activistes engagés directement dans la défense des droits de l'homme, on recense à peu près 200 à 300 personnes incarcérées pour la défense des droits. Ça pose la question aussi des délits pour lesquels ces personnes sont poursuivies et arrêtées. La plupart des personnes qui sont poursuivies pour leur opinion sont poursuivies pour une incrimination d'une menace à la sécurité de l'État ou à la Constitution ou à l'image du président, des termes qui aujourd'hui relèvent davantage de la lutte contre le terrorisme. C'est aujourd'hui un prétexte utilisé pour justifier la répression des opposants.
La liste des pays qui réduisent les sociétés civiles à néant, tuent ou emprisonnent les opposants politiques est longue. Russie, Tchétchénie, Maroc, les pays du Proche et Moyen-Orient. Le Mandela palestinien, c'est ainsi que les partisans de Marwan Barghouti présentent leur leader national emprisonné depuis 2002 en Israël. Le Mandela américain, le plus vieux prisonnier des États-Unis. Léonore Pelletier, militant amérindien derrière les barreaux depuis 40 ans. Et enfin, les prisonniers des Panthères Noires, les Black Panthers, comme le journaliste afro-américain Moumia Boujamal, enfermé depuis plus de 35 ans, pour qui un groupe d'artistes français, Big Joe Hunter and the Blues Beans, a composé cette chanson. I hear my fellow inmates calling down the hall.
Ainsi se referme la face cachée du globe. La météo dans les très grandes lignes, vigilance, neige et verglas sur 8 départements du Cantal à la Saône-et-Loire. Conséquence de l'avancée vers l'est de cette perturbation arrivée hier par la Bretagne, elle va sévir dans la journée sur tout le pays. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux.